Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on produire sans détruire ? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ah, si seulement il pouvait en être des objets manufacturés comme des hommes dans l'Ancien Testament. La question du recyclage serait vite réglée. Retour à la case départ garantie pour nos biens de consommation. Sauf qu'à l'époque, évidemment, les déchets en plastique n'existaient pas. Sauf que l'exploitation des ressources naturelles n'avait pas atteint de tels sommets, conduisant la communauté humaine à ponctionner davantage que ce que la planète peut lui procurer sans s'appauvrir. Il faut rompre avec le gaspillage, en finir avec un modèle dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes. C'est le Premier ministre qui parle, Édouard Philippe, lors de son discours de politique générale du 12 juin dernier. Le chef de gouvernement promet une loi contre le gaspillage à la rentrée. Mais qu'entend-on par gaspiller ? Si ce que je produis est acheté, si ce que j'achète est utilisé, alors tout va bien ? Ou bien faut-il désormais aussi se poser systématiquement la question de l'impact environnemental et de l'utilité réelle de ce qui est consommé ? Mais auquel cas, qui est le mieux placé pour en juger ? Peut-on produire sans détruire ?
C'est un titre. France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Voilà, petite nouveauté, mais pourquoi pas ce soir ? Peut-on produire sans détruire ? C'est donc le titre de l'émission de ce soir qui nous a été inspiré par la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, qui disait début juin « produire pour détruire, c'est fini ». On verra ce qu'en pensent nos invités du soir, en l'occurrence Catherine Larère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Parmi vos publications, je citerai la dernière, qui est un ouvrage collectif publié sous votre direction, Presse de Sciences Po, « Penser l'anthropocène ». Pour discuter avec vous, Philippe Biwix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur, membre de l'Institut Momentum, qui est un laboratoire d'idées qui réfléchit à ces questions d'environnement. Et vous avez publié, c'était il y a quelques semaines de cela, au Seuil, « Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire ». Notre troisième invité est au téléphone, il s'agit d'Alexandre Delegue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'université de Lille et on peut notamment vous lire sur le site dont vous êtes le cofondateur, Econoclast.net. Alors je voudrais, pour entamer cette discussion, revenir sur cet extrait du discours de politique générale d'Édouard Philippe le 12 juin dernier à l'Assemblée nationale. Il faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. J'évoquais un autre extrait de son discours en introduction. Manifestement, il y a un cap qui a été franchi dans la prise de conscience de la classe politique. Est-ce que vous diriez, Catherine Larère, que c'est le plus difficile, justement, que d'avoir cette prise de conscience ? Ou bien est-ce que le plus difficile reste devant nous ?
Je crains que le plus difficile ne soit devant nous. D'une part, la prise de conscience ne conduit pas toujours à changer de façon de faire. Quelquefois, ça aide à continuer ce qu'on faisait avant. Et puis, d'autre part, on peut craindre qu'il y ait une sorte de rhétorique de la déclaration qui ne soit pas accompagnée de fait. Je dois dire que parler de produire pour détruire, ça marque une sorte d'excès rhétorique, parce qu'on produit pas pour détruire. En produisant, on détruit, ce qui est différent. Et on peut s'inquiéter des excès rhétoriques.
On peut dire en tout cas que si la prise de conscience ne suffit pas, sans prise de conscience, il en faut une, sinon il n'y a pas d'action qui vont...
Il en faut. Mais à ce moment-là, il faut voir ce qu'il y a derrière.
Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Biwix ?
Oui, je trouve que c'est le virage sémantique, en tout cas, est intéressant. On était plutôt dans des discours relativement feutrés jusqu'à présent de croissance verte. Hein. On allait faire de l'énergie renouvelable, on allait faire des voitures électriques, et puis voilà, le reste suivrait à peu près. Et il semble y avoir un virage, en tout cas dans le discours, avec des mots qu'on n'employait pas forcément tout à fait avant, la sobriété, hein, on parlait de sobriété, de frugalité. Ensuite, la question, ça va être effectivement comment on arrive à effectivement ne pas tomber dans la loi gadget ou la loi annonce qui se concentrerait par exemple sur tel ou tel gâchis, effectivement, je sais pas, tel ou tel plastique, alors et puis hop, on remet de la consigne sur les bouteilles plastiques, alors qui pose d'ailleurs un certain nombre de sujets éventuellement économiques au territoire. et qu'on aille vraiment dans une économie qui soit plus circulaire, plus respectueuse de l'environnement. On en est très très loin aujourd'hui.
Cette prise de conscience, ce virage, est-ce qu'il gagne aussi le monde de la science économique, Alexandre Delegue? J'ai l'impression que oui, alors c'est sans doute assez lent, mais de plus en plus, me semble-t-il, d'économistes s'intéressent à ces questions. Est-ce que c'est aussi votre cas d'ailleurs?
Oui, c'est une question c'est pas une question qui est entièrement nouvelle, mais il y a plusieurs domaines dans lesquels on voit ce type de prise de conscience qui apparaît. Il y a un grand domaine qui est la question du calcul du PIB, la mesure de la richesse, dans lequel cette idée on produit pour détruire, en réalité c'est quelque chose qui vient de la comptabilité nationale et de la façon dont on mesure le PIB. Dans ce domaine-là, la mesure de la valeur des ressources naturelles, c'est des choses qu'on essaye de mieux prendre en compte maintenant. Oui, dans ce domaine-là, il y a effectivement une prise de conscience, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'inquiétudes et d'avertissements sur le fait que la rhétorique, c'est une chose, mais on va rencontrer des vrais problèmes économiques si on veut aller dans cette direction.
La rhétorique, elle peut avoir des effets de blocage, Catherine Larrère, c'est-à-dire que à utiliser des mots qui seraient trop radicaux, on peut contraindre finalement le public, les consommateurs à ne pas adopter tout à fait les bonnes attitudes. Ça fait aussi partie des enjeux.
Mais à prendre des mots trop radicaux, on les fatigue, effectivement, on les détruit d'une certaine façon. Il y a aussi une destruction dans l'usage du langage, et à employer sobriété à toutes les sauces, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, quoi.
Le gaspillage, d'ailleurs, moi je me disais, finalement, il va y avoir une grande loi qui est annoncée pour la rentrée sur le gaspillage, pas seulement d'ailleurs le gaspillage alimentaire, mais qui touchera normalement tous les biens de consommation courante. Quand on est soi-même un consommateur, en général, on ne va pas considérer qu'on est dans le gaspillage. On a plutôt l'impression que sont les autres, non, qui gaspillent, Philippe Biwix.
Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le consommateur, il est enchâssé dans un système économique, industriel, fiscal, culturel, qu'il doit subir. Il ne se rend d'ailleurs pas forcément compte qu'il le subit. Et si vous avez acheté un nouveau fer à repasser, parce que vous avez quand même décidé quand vous alliez encore repasser vos vêtements, on peut décider de plus le faire, mais bon, c'est un choix culturel différent. Donc on peut toujours aller plus loin dans la sobriété. Et puis que ce fer à repasser, malheureusement, tombe en panne au bout de 2 ans, et que vous essayez d'aller le faire réparer, vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que, en fait, on va vous répondre, mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir pour savoir quelle est la panne, ça va vous coûter le prix du neuf. Pourquoi? Parce que les ressources ne coûtent presque rien, l'énergie grise qui est inclue à l'intérieur de l'objet non plus, et par contre, la main-d'œuvre qui va devoir diagnostiquer, réparer, elle est extrêmement fiscalisée. Et donc, on va, même avec la meilleure bonne foi, on va avoir du mal à réduire son gaspillage si on veut essayer de faire durer ces produits. Et je pense que ensuite, on a la question de la consommation au sens large, la consommation qui peut être une consommation de besoins fondamentaux ou une consommation plus de, on pourrait dire, de superflu, mais c'est impossible de tracer la barrière, évidemment, entre ce qu'est un besoin fondamental et le superflu. Le programme des Nations Unies pour le développement s'y est cassé les dents pendant des décennies dans les pays du Sud. Et Voltaire disait, le superflu, c'est une chose très nécessaire dans le mondain. Donc, on a ce problème de rivalité mimétique. On est pris aujourd'hui dans un système de publicité, mais d'entraînement général à la croissance, à la consommation. Alors, c'est les week-ends low cost, d'aviation low cost, c'est plein de choses comme ça. Et c'est extrêmement dur de s'en extraire. Et l'État lui-même n'a pas forcément intérêt à le faire parce que qui dit consommation dit derrière TVA et un certain nombre de rentrées fiscales. Donc,
Alors, avant de faire réagir Alexandre Delegue, vous voulez réagir également, Catherine Larrière, sur ces arbitrages entre ce qui relève du superflu et ce qui relève
du nécessaire. Le superflu, chose très nécessaire, c'est Voltaire qui dit ça au XVIIIe siècle, au moment de la querelle du luxe. On va montrer que finalement, le luxe, c'est bien parce que la dépense des riches salarie les pauvres et que donc des dépenses qui, d'un point de vue moral, on considérerait comme critiquables, en fait, mettent l'économie en marche.
Et tout, le ruissellement.
Toute la réflexion économique moderne s'est construite là-dessus, sur l'impossibilité de faire la distinction entre le superflu et le nécessaire, parce qu'on ne peut pas s'en tenir à une définition extraordinairement stricte des besoins.
Sachant que moi, consommateur, si j'ai d'énormes revenus et que pour d'autres, peut-être ce que je vais consommer va être.
Mais on va dire
superflu,
il vaut mieux que je les dépense plutôt.
Sauf que pour moi, ça va être quelque chose peut-être de nécessaire. Par exemple, je vais me dire, ça me permet de me distinguer des autres. Avoir des produits de luxe, c'est aussi un signe de distinction sociale, et quitte à avoir de l'argent, autant que ça se sache et que ça se voit, non, Catherine Larrère?
Non, mais Smith disait, le point de départ de la science économique, Smith disait, si on achète une montre qui marque très bien l'heure, on n'a pas besoin de savoir l'heure à la minute près, ce qui était particulièrement vrai au XVIIIe siècle, c'est pour avoir une montre comme le voisin, ou plus belle que le voisin. Mais il ajoutait, et c'est comme ça que finalement tout le monde produit, tout le monde travaille et ça profite à tout le monde. C'est là-dessus qu'on est en train de revenir. C'est sur l'idée que on peut considérer une extension de la production sans regarder ce que vous appeliez les impacts environnementaux. C'est ça le problème.
Alexandre Delegue, est-ce que le consommateur a les moyens, les capacités de réaliser ces arbitrages entre ce qui relève du superflu, ce qui relève du nécessaire, ce qui serait utile et ce qui ne le serait pas, avec évidemment la difficulté de dire ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, justement?
Alors, la réponse de l'économiste et de l'analyse économique à ce sujet, c'est que tout seul, on est désemparé. On a besoin d'informations pour savoir exactement ce que coûte, quand je dis coûte, c'est qu'est-ce que consomme en termes de ressources, etc., le comportement qu'on peut avoir. Et l'idée des économistes, c'est que, en général, les gens agissant dans leur propre intérêt, pour peu qu'on leur donne les signaux adéquats, pour peu que le système autour d'eux leur fournisse les signaux adéquats, vont trouver des solutions à ce type de problème de ressources. C'est quelque chose qui peut sembler un peu très général et un peu ésotérique, mais c'est extrêmement difficile autrement par des injonctions ou en essayant de le planifier de l'extérieur. Alors, ça c'est le principe général. Maintenant, ce que l'on peut noter quand même, c'est que aujourd'hui, et c'est un petit peu ce qui a déjà été dit, les signaux qui sont envoyés ne vont pas dans le sens de la diminution des gaspillages. Effectivement, extraire des ressources naturelles, ça coûte très peu cher. Effectivement, le travail qui permettrait de réparer les objets, ça coûte beaucoup plus cher. Et d'un certain point de vue, on en est satisfait. La raison pour laquelle le travail est cher, c'est qu'on est plutôt bien payé. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement tout un travail à faire autour de ces signaux que les gens reçoivent pour que ces signaux nous traduisent le fait que consommer tel produit, ça a un effet sur l'environnement, ça a un effet sur la biosphère, et que c'est pas quelque chose qu'on arrive aisément à percevoir directement. Et là, il y a un énorme travail à faire pour que les gens puissent recevoir tout simplement ce signal et cette information pour pouvoir agir et économiser des ressources.
Catherine Larrère.
Oui, je voudrais quand même rajouter que, d'accord, le gaspillage est du côté de la consommation et qu'on fait tout ce qu'il faut pour nous culpabiliser, mais que le gaspillage, il est d'abord dans la production. Pour produire, on détruit beaucoup de l'énergie, des ressources naturelles, et le consommateur, il vient après une production qui est déjà très destructrice.
Alors justement, du côté de la production, là aussi, je me réfère à ce qu'a dit Édouard Philippe dans son discours de politique générale. Il appelle à en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Là, il se place vraiment du côté des producteurs. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord les uns et les autres pour dire que c'est une pratique scandaleuse que de jeter ce qui ne peut être vendu, Alexandre Delegue?
C'est un petit peu compliqué parce que pourquoi est-ce que ça survient? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ce type de circonstances? Dans l'absolu, produire quelque chose qui coûte cher, l'acheter en espérant le revendre, à ne pas le vendre pour le détruire au bout du compte, dans l'absolu, on comprend pas pourquoi est-ce que ça arrive. Donc utiliser ça de manière très générale, ça semble relever du bon sens, mais dans la pratique, ça pose des vraies questions. Qu'est-ce qui génère ce genre de choses? Pourquoi est-ce que ce type de comportement arrive? Et surtout, est-ce qu'on n'est pas ici sur quelque chose qui est un petit peu anecdotique par rapport, parce que produire pour ne pas utiliser, si on veut prendre, bon, l'exemple auquel on pense, c'est celui de l'industrie textile, où il y a eu quelques exemples qui ont pu être donnés là-dessus, parfois aussi un petit peu sur les produits alimentaires, mais la raison bien souvent pour laquelle ce type de pratique se fait, c'est un que quand on a un produit qui ne peut pas être vendu, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des produits qui ne sont pas vendus? C'est quelque chose, parfois tout simplement détruire coûte beaucoup moins cher que d'essayer d'en faire autre chose. Et quand je dis que ça coûte beaucoup moins cher, c'est pas seulement en termes financiers, c'est aussi en termes de ressources et en termes de ressources naturelles. Pour prendre l'exemple du textile, détruire des t-shirts, peut-être que ça coûte moins cher que de les faire le tour du monde par bateau pour essayer de leur trouver des acheteurs à un prix plus bas à l'autre bout du monde.
Voilà, je dois dire d'ailleurs que l'exemple de l'industrie textile est particulièrement approprié aujourd'hui puisqu'on est en plein début des soldes et que les soldes sont aussi une stratégie qui a été mise en place plusieurs fois par an pour écouler les stocks, pour écouler les invendus. Philippe Biwix.
Oui, non, dans ce cas-là, on ne détruit pas, mais on va les stocker chez le consommateur qui les utilisera sans doute peu de fois par an. Enfin, il y a des chiffres qui commencent à sortir assez intéressants sur le nombre de fois où on sort en moyenne un vêtement de son placard. Et en fait, on sort toujours tout le temps les mêmes, puis il y en a qu'on a acheté et qu'on ne sort pas, semblerait-il. Mais...
D'autant que dans les soldes, on achète en général ce qui nous fait très envie, peut-être pas ce qui nous est très utile.
C'est-à-dire ou ce que tout le monde veut, ou ce sur quoi tout le monde se précipite au moment
mimétique,
des soldes.
Voilà, c'est le désir mimétique, voilà. Bien sûr.
C'est un désir mimétique.
Moi, je pense qu'une fois que le t-shirt a été fabriqué, on arrive bien tard dans la boucle de réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce t-shirt, à part peut-être un ours en peluche en plastique recyclé, je ne sais pas quoi. Bon. La question qu'il faut se poser, c'est comment on en est arrivé là, alors qu'on est dans un monde où on nous prétend que finalement, une production qui est tirée par le consommateur, le client est roi, etc., cette espèce de mythologie économique, mais qui est la même soupe qu'on nous resserre depuis deux siècles et quelques, et à l'heure en plus du numérique, on nous explique qu'on va choisir chacun notre produit fortement personnalisé. Comment on en arrive à une logique où, au contraire, on a des stocks énormes sur les bras de trucs invendus parce qu'on est dans cette logique de fast fashion, parce qu'on est dans cette logique d'obsolescence des objets, mais aussi d'obsolescence des lieux, les bâtiments qui tournent à toute vitesse, qui changent d'usage, etc., et d'obsolescence des désirs. Et c'est ça la question qu'il faut résoudre. Et pour moi, donc effectivement, on n'est pas dans une industrie qui est tirée par le désir du client roi. On est dans une industrie poussée. Alors, il y avait un formidable économiste qui s'appelait John Kenneth Galbraith qui a écrit en 1960 et quelques Le Nouvel État Industriel, qui avait quand même fait débat à l'époque, et qui explique très très bien que les montants en jeu de développement, etc., fait que l'industrie a besoin de pousser ces solutions, soit à travers la commande publique, soit à travers les désirs des consommateurs par la publicité. Et il y a un excellent exemple aujourd'hui, la 5G, qui fait un petit peu débat le déploiement de la 5G, parce qu'il paraît que ça va faire chauffer un peu les antennes des insectes. À quoi sert la 5G? À faire les objets connectés, c'est-à-dire le frigo qui fait ses courses tout seul, dont personne n'a besoin ou envie, ça fait 10 ans qu'on nous bassine avec la domotique, et la voiture autonome, dont on peut discuter le bilan environnemental futur à cause de l'effet rebond.
Catherine Larrière.
Et les effets moraux. Donc,
les effets moraux, c'est-à-dire?
Je veux dire, il y a tout un débat moral sur la voiture autonome qui...
Ah oui, pardon.
Comment on va... Bon, c'est... On se monte la tête sur pas grand-chose, en fait. Mais... Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai qu'il y a un bourrage de crâne sur j'en ai rêvé, Sony l'a fait. C'est juste le contraire. C'est Sony l'a fait et il faut que Sony le vende. Et on en fera rêver parce que ça existe déjà.
Mais alors, il faut faire quoi? Il faut interdire à ces grandes firmes d'innover, de mettre sur le marché de nouveaux produits? C'est-à-dire, elle passe par où, la régulation? Si le consommateur est enchâssé, justement, dans ce système avec cette difficulté d'en sortir, parce qu'il y a cette aussi compétition entre les différentes personnes, si on considère que le système en lui-même, de l'intérieur, ne peut pas se réformer, c'est quoi? Ce sont des décisions politiques qui doivent dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, je sais pas moi, l'interdiction de l'utilisation et de la production des plastiques à usage unique. Est-ce que ça, c'est une piste qui vous paraît intéressante?
C'est plus ou moins ce qui se fait. C'est plus ou moins ce qui se fait. Il n'y a plus vraiment de sacs de caisse dans les supermarchés, quand même.
Non, mais enfin, il y a encore beaucoup de gobelets.
Il y a encore beaucoup de gobelets, mais il y a un peu ce qui... Bon, je pense que ça ne marchera pas sans régulation, sans contrainte. Je pense que ça ne suffit pas. Et je pense, moi, si je me mets du côté du consommateur, donc qu'on a un peu de tendance beaucoup à culpabiliser et aussi qu'on a un peu de tendance à affoler en lui disant bah, si vous imaginez que quelque chose est bien, en fait, ça a des conséquences secondaires que vous n'avez pas imaginées et donc vous allez croire qu'en recyclant ou en consignant les bouteilles, mais je vais vous montrer. Bon, et la réponse des moralistes et des philosophes, c'est pour les gens individuellement, arrêtez d'essayer de calculer toutes les conséquences parce que vous n'y arriverez pas et essayez de vous demander ce que vous devez faire et ce qui vous convient à vous. Parce que sinon, on ne sait plus quoi faire.
Ah, j'aimerais savoir ce qu'en pense l'économiste Alexandre Delegue. Arrêtez de calculer les conséquences. En préparant l'émission, par exemple,
du point de vue des comportements individuels.
Oui, et puis aussi du fait de ce que vous disiez, Catherine Larrière, c'est-à-dire qu'on va dire aux consommateurs, oui, vous allez avoir cette pratique-là qui va vous paraître vertueuse, mais en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Et en préparant l'émission, Alexandre Delegue, vous évoquiez avec Virginie Leduo la question du vrac, par exemple. La vente en vrac, qui paraît être une bonne réponse à la lutte contre le gaspillage et contre les déchets en particulier, vous disiez, finalement, ça n'est peut-être pas si vertueux que ça.
Le problème du vrac, c'est que, de manière générale, sur la question des emballages, en particulier pour les produits alimentaires, c'est que ce qui est vendu en vrac, il y a énormément de déchets, il y a beaucoup de pertes. La raison pour laquelle les magasins n'aiment pas trop vendre en vrac et préfèrent vous mettre 6 pommes dans une petite barquette en plastique avec du cellophane dessus, c'est que ils perdent beaucoup moins de produits que s'ils fournissaient des produits en vrac. On voit régulièrement des gens se plaindre quand ils vont dans des magasins en disant « Oh là là, mais incroyable, le café en vrac me coûte beaucoup plus cher que celui qui est dans un emballage ». La raison est simple, c'est que ce qu'on gagne dans le fait d'utiliser moins d'emballage, on le perd avec des produits qui sont gaspillés pendant le transport, pendant la manutention, par les consommateurs. Pour les fruits, par exemple, si on les met pas comme ça sous emballage, dans les magasins, on a des... ils vont se perdre extrêmement vite. Si vous ne mettez pas d'emballage, une pomme pourrie risque de faire pourrir un énorme paquet, alors que si elles sont séparées dans des petites boîtes, ça va être beaucoup moins le cas. Donc au bout du compte, voilà ce qu'est la raison. On peut dire la même chose aussi d'ailleurs sur la question du recyclage. Le recyclage, ce qu'on oublie, c'est qu'il a été poussé beaucoup dans les années 60, en particulier par des entreprises comme Coca-Cola, quand ils voulaient utiliser des bouteilles plastiques plutôt que des bouteilles en verre consignées, parce que eux, ça les arrangeait bien. Ils faisaient la bouteille et puis ensuite, c'était au consommateur de se débrouiller et d'aller recycler sans tellement se poser la question de ce qu'était ce cycle de recyclage. Mais le recyclage, en particulier pour le plastique, ça ne marche pas très bien. Le recyclage, ça marche pour quelques produits comme l'aluminium, le carton, etc. Mais pour les plastiques, si c'est pas subventionné, c'est pas économiquement rentable et même environnementalement, c'est pas tout à fait optimal.
Philippe Biwix, sur la question justement du recyclage, avec alors on entend parler d'un retour de la consigne pour les verres et puis aussi peut-être pour certains plastiques, ça serait plus intéressant. Les industriels de l'emballage disent que c'est une solution qui appartient au passé, qu'il faut la laisser dans les poubelles de l'histoire, si j'ose dire, puisqu'on parle de déchets de recyclage.
Oui, alors sur le recyclage, il y a autant de cas presque que de matière à recycler, comme le disait Olivier. Donc
Alexandre.
Alexandre, pardon. Le sujet, par exemple, sur les batteries. Juste pour vous donner un exemple, les batteries, les petites batteries de tous nos objets numériques, il y a du cobalt, il y a du lithium. On recycle le cobalt, mais le lithium finira dans une sous-couche routière ou pour fabriquer un nouveau lotissement. Ça va être perdu, on va pas le récupérer, c'est pas économiquement rentable avec les technologies qu'on a. Faut mieux acheter du lithium qui arrive directement d'Amérique du Sud. Donc on voit que dans cet exemple-là, il y a un sujet sur combien je paye ma matière première source et combien je peux toucher à l'issue du recyclage. Et pour les plastiques, on est sur le même sujet, c'est-à-dire finalement... Mon plastique, combien coûte mon plastique de première monte issu du pétrole, la polymérisation du pétrole, des molécules issues du pétrole ou du gaz, combien coûte-t-il? Comment est-il taxé? Absorbe-t-il une taxe carbone ou une externalité dans son coût de départ? Et puis derrière, quelles sont les obligations ou pas d'avoir des choses issues du recyclage pour les réintégrer dans les cycles? Et moi, je crois que le recyclage, c'est déjà une chose qui toujours m'embête un petit peu sur le mode finalement, c'est bon, je jette ma bouteille, mais elle va être recyclée. Donc en fait, je me dédouane. Donc, moi, je préfère déjà me poser la question de la sobriété à l'origine. Et donc, avant de me précipiter sur la consigne de l'eau en bouteille, je me dirais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant d'eau en bouteille?
C'est vrai qu'il peut y avoir un effet pervers dans le recyclage. Alors, moi, je le vois, par exemple, dans mon usage personnel au travail. On a fait l'effort, alors, de ne plus utiliser de bouteilles en plastique, mais d'avoir une carafe et des timbales en bambou. Donc, on peut utiliser très longtemps, j'espère, si on arrive à ne pas les casser, par exemple. Mais le papier, on sait que le papier, on peut le recycler. Mmh. Et je ne crois pas avoir du tout réduit ma consommation de papier. J'imprime beaucoup d'articles, par exemple, qui me servent pour le travail. Donc, finalement, quand on sait que ça peut être recyclé, on est peut-être moins prudent. Enfin, on reste dans une forme de surconsommation.
Alors c'est même, oui, c'est pire que ça. Moi, je me souviens d'un patron dans un travail précédent qui m'expliquait. Alors, on était quasiment payé au kilo de papier parce que c'était dans le conseil, hein, donc au kilo de papier de rapport. On faisait des rapports très épais et qui me racontait toujours, mais oui, on peut consommer autant de papier qu'on veut puisque la forêt française progresse. Alors, ce qui est vrai d'ailleurs, mais alors, malheureusement, en fait, il faut savoir qu'il y a des flux de pâte à papier mondiaux qui alimentent des papeteries européennes diverses et variées. Et donc, en réalité, ça n'a pas grand rapport. Enfin, évidemment, une partie du papier ou du carton est fabriquée avec du bois français, mais pas que. Loin de là. Et puis surtout, recycler, c'est pas complètement neutre. Hein. Je veux dire, vous avez un papier qui a été imprimé, vous avez des encres dessus, vous avez des métaux à l'intérieur, vous avez des produits chimiques, vous allez devoir récupérer ça. Ça finira, ça s'appellera des déchets industriels. Hein. Ça partira in fine, après un petit passage dans une station d'épuration, ça partira en déchets. Il va falloir reblanchir le papier, etc. Donc tout ça n'est pas neutre. Évidemment, le recyclage, c'est toujours mieux, a priori, que quelque chose de nouveau. Hein, l'aluminium recyclé, c'est 90% d'énergie en moins, mais c'est jamais parfait non plus. Donc il faut toujours privilégier la durée de vie, il faut toujours privilégier la sobriété, il faut toujours réduire à la source et augmenter fortement complètement changer notre système. Et je crois que on a un problème si on se dit qu'on pourra à peu près consommer comme aujourd'hui, mais en réduisant fortement notre consommation de ressources. C'est pas vrai, il n'y a pas ce découplage là, on ne sait pas faire ce découplage.
La sobriété, c'est le mot clé, Catherine Larrière?
Je dirais d'abord, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Hein, parce que ça, si on veut recycler, on en vient à produire des déchets pour pouvoir les recycler, ce qui est pas forcément une bonne chose. Alors, sobriété, là encore, c'est un mot. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? À qui on l'impose? Bon, il faut aussi penser que il y a des pays très pauvres à qui parler de sobriété, c'est à la limite de l'obscénité. Hein. Donc là, on est en train de parler à des gens de sociétés très développées qui ont des choix. Et à ce moment-là, bon, pourquoi pas parler de sobriété? Moi, ça me gêne pas particulièrement s'il n'y a pas avec tout un cortège. Moi, j'en ai contre la culpabilisation et la moralisation. Et donc, j'insisterai plutôt sur la capacité de développer des formes de consommation autres qui ne restent pas individuelles et peuvent se fédérer en action collective.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Je pense à des formes, par exemple, d'agriculture biologique, où la question n'est pas seulement de produire sans pesticides ou sans engrais chimiques, mais reprendre en main la façon de produire, de se lier à une production locale. Donc, petit à petit, de faire société. Et que donc, la question, c'est pas simplement de changer de mode de production, c'est de changer de forme de vie.
Comment est-ce que la science économique, Alexandre Delegue, elle intègre justement aujourd'hui cette question de la sobriété dans un système qui a passé son temps à croître en permanence? Alors avec des crises, certes, mais la tendance et l'objectif, ça reste quand même toujours la croissance.
Mais il y a plusieurs manières de répondre ici. Mais la réponse de l'économiste, c'est d'abord de constater que historiquement, quand une ressource devient tellement rare qu'on n'arrive plus à lutter, qu'on s'inquiète de ce qui risque de ne plus y en avoir, en général, c'est le moment à partir duquel on va commencer à trouver des solutions. Pourquoi? Parce que les prix vont augmenter. Là, c'est la situation dans laquelle le mécanisme économique fonctionne bien. Le prix augmente. Du coup, constatant que le prix augmente, eh bien, soit les gens en consomment moins tout court, parce que c'est trop cher, ils ne veulent plus de ce produit-là. Et de l'autre côté, on va essayer de trouver des alternatives qui éventuellement remplissent le même usage, mais de manière un petit peu différente. Et dans ce cas-là, on pourra continuer de croître en ayant résolu le problème de la raréfaction de cette ressource, ou ça peut aller dans le même sens, si on produit trop d'un certain type de déchets et que ça devient insupportable, on va trouver autre chose. L'exemple typique, c'était les dizaines de milliers de chevaux qui étaient à Paris au début du siècle, qui produisaient des tonnes et des tonnes de crottin de cheval, une odeur pestilentielle, des problèmes de maladies, etc. Et tout ça a été totalement... le crottin de cheval n'est clairement plus un problème à Paris, par exemple. On a trouvé d'autres moyens de transport, et si demain on a le même problème en disant on a trop d'émissions de particules fines, le mécanisme économique moyennant des incitations sous forme de prix plus élevés fait que on trouve des solutions pour ce type de problème. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque ce mécanisme ne peut pas intervenir et que on se retrouve avec quelque chose où soit le mécanisme de prix est totalement inopérant parce qu'on ne voit pas un certain type de pollution, c'est un petit peu le cas déjà avec les particules fines parce qu'on voit pas vraiment ce type de, on voit pas directement cette pollution. Et puis, il y a un certain nombre de cas dans lesquels tout simplement il n'y a pas de solution. On risque d'arriver à quelque chose où on n'est pas capable de trouver ce type de mécanisme. Donc on va dire que l'optimisme des économistes, il est modéré. On peut trouver des solutions, mais pas forcément, on ne peut pas sortir des lapins du chapeau tout le temps.
Est-ce que c'est quand ces mécanismes ne peuvent pas être gérés par le seul secteur de l'économie que doit intervenir ou pas, selon vous, la puissance publique et la politique, les décisions politiques?
C'est possible, mais c'est compliqué parce que très vite on arrive sur quelque chose qui est extrêmement autoritaire et qui prend des formes qui prend des formes de contrôle social qui nous paraissent assez déplaisantes, ou dans une manière comme le disait tout à l'heure Madame Larrère, sous la forme d'une culpabilisation généralisée et de l'imposition de normes à des gens sans que ce soit légitime. Donc on a un vrai problème, un de légitimité, aussi d'efficacité, c'est-à-dire que la réaction publique à ce type de choses, c'est bien souvent d'imposer des contraintes sans en regarder les effets, sans en repérer les effets secondaires. Les gouvernements voient les choses d'une certaine manière, pas forcément comme les gens les voient, à un niveau de manière plus décentralisée. Et donc, c'est pour ça que les économistes préfèrent quand même les solutions plus décentralisées.
Et les ingénieurs, est-ce qu'ils ont peur d'aller vers des mesures qui seraient des mesures plus autoritaires, Philippe Biwix?
Non, je pense que c'est pas le bon débat. Je pense qu'il y a toujours
Pourtant, Dieu sait que c'est un débat qui existe, beaucoup.
Bien sûr, mais qui justement, il est monté en épingle par ceux qui n'ont pas envie que les choses changent, me semble-t-il. Donc, tout marché nécessite une réglementation. Je veux dire, c'est la base de l'économie. Un marché sans régulation, sans réglementation ne fonctionne pas, n'est pas efficient, dirait l'Union européenne ou la Commission européenne. Donc il y a toujours régulation. La question, c'est quel est le niveau de régulation, comment on le fait et comment on essaye de faire en sorte que cette régulation aille dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une vie meilleure, plus épanouie, que sais-je, et avec des conditions environnementales plus agréables pour nous et pour nos descendants.
Quitte à passer par de fortes interdictions.
Mais les interdictions existent déjà. Figurez-vous que les chars d'assaut sont interdits sur le périphérique parisien et à l'intérieur de Paris. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Même si vous pouvez vous payer un AMX-30 de l'armée française, d'occasion, ça coûte pas cher, au prix de la ferraille, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est pas autorisé, c'est interdit, c'est liberticide, c'est déjà le cas. Donc
on n'interdit pas leur production.
On n'interdit pas leur production, leur utilisation, mais dans d'autres pays peut-être, oui, en ce moment, au Yémen ou ailleurs, j'en sais rien. Mais non, le sujet c'est de dire, on peut tout à fait avoir, la puissance publique peut avoir un agissement réglementaire, peut mettre des taxes, peut mettre des interdictions. Alors on pourrait tout à fait, par exemple, mettre une taxe au poids sur les voitures pour progressivement, au lieu d'être en train d'augmenter le poids moyen des voitures qui sont vendues aujourd'hui dans un pays comme la France, réduire ce poids et ne pas avoir un effet rebond, parce que les motorisations sont de plus en plus efficaces, mais comme le poids des voitures est en train de monter, on est en train de perdre tous les gains qu'ont fait les ingénieurs sur la motorisation. C'est le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de passer sur les SUV, etc., donc des véhicules de plus en plus forts. On pourrait tout à fait mettre une vignette au poids. Ça existait d'ailleurs, cette vignette, c'était les chevaux fiscaux. On pourrait faire exactement la même chose, remettre ça, où on paye annuellement, et quand on a une voiture de 1 tonne 8, ben on paye plus cher qu'une voiture de 1 tonne 4.
C'est tout. On va tous se retrouver avec des 4L, c'est ça?
Mais oui, bien sûr, mais c'est
ou
ça
peut-être
le bonheur.
Se retrouver avec moins de voitures aussi.
Et alors, est-ce que les années 60 avec les 4L et 2 chevaux, pour ceux qui ont connu ces années 60, étaient si malheureuses et si liberticides et si affreuses? Non, je ne crois pas. Donc c'est une vraie question.
Alexandre Delagui.
Oui, mais on rajoutera la ceinture.
Ailes,
et alors, on rajoutera la ceinture de sécurité, bien sûr, et le pot catalytique, rassurons-nous. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Évidemment qu'il faut garder la connaissance, le progrès technologique qu'on a fait entre-temps. Par contre, pourquoi rouler avec des voitures de plus en plus lourdes pour transporter toujours la même charge utile, 70 kilos? Donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Il y a l'aspect fiscal qui est extrêmement important. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, l'énergie, les ressources ne valent rien et on met tout sur le travail. Il y a l'aspect prescriptif. La commande publique est énorme à toutes les échelles dans les territoires au niveau de l'État. Si on voulait installer des filières, supporter des filières, la puissance publique peut le faire par sa puissance d'achat. Et puis il y a l'exemplarité.
Ah ben j'allais venir justement.
L'exemplarité, l'éducation, et ça je veux dire dans l'aspect gilet jaune, il y a quand même quelque chose. Parce que quand vous mettez la taxe carbone d'un côté sur le plein du diesel et que vous rentrez du Japon parce que vous avez une réunion pressante avec un avion de la République, excusez-moi, effectivement, ça crée des irritations. Et donc l'exemplarité est importante, l'éducation est importante. Par exemple, la techno-fascination pour l'école numérique, on est en train de construire des citoyens numériques et consuméristes de demain, alors que ce qu'on a besoin de demain, ce sont des citoyens humanistes. Il faut faire revenir les humanités dans l'école.
Ça renvoie à vos précédents ouvrages, Philippe Biwix, sur l'exemplarité. Alors interrogeons la philosophe,
mais exactement, non, mais Philippe Biwix a raison. Il n'y a pas de marché sans État. Donc on veut nous faire croire que c'est ou l'État ou le marché, c'est les deux à la fois. Et donc c'est un problème de régulation, taxes ou droit. Et il me semble que le problème, c'est de sortir de ce couple. C'est de penser qu'il n'y a pas que ce couple. Et tout ce qui se fait sur les communs, sur des initiatives qui, dans le monde entier, se multiplient. Hein, et qui sont... Bon, ça a été tout le travail qui a été fait sur les communs, montrer que parfois on peut échapper à la dualité marché-État et que des communautés peuvent prendre en main leur propre régulation. Donc on n'est pas où vous serez libre ou vous serez contraint. On est dans des formes diverses de façon de régler sa propre vie et toute l'interrogation sur le commun montre qu'on est en train d'en sortir. Et c'est là qu'est l'exemplarité. Et parce que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de dire « Ouais, vous inquiétez pas avec la régulation par le marché et l'innovation technologique, ça sera comme avant, mais avec des choses différentes, mais vous verrez pas la différence. Vous aurez des voitures électriques au lieu d'avoir des voitures à essence ou à diesel, mais de toute façon vous aurez des voitures individuelles. Mais le problème, c'est peut-être la voiture individuelle, et c'est là que on n'est pas dans marché contrainte, on est dans la façon dont les gens prennent leur vie en charge eux-mêmes.
Alexandre Delegue.
Ah ben, tout à fait, mais je pense qu'on est assez d'accord avec ce principe sur le fait que c'est une question avant tout de ce que les gens prennent eux-mêmes leurs propres décisions et leurs choix avec leurs propres valeurs. Je pense que là, c'est un point sur lequel il y a une assez grande unanimité. Je pense que le problème est dans le détail et de comment on fait, qu'est-ce qui doit se passer. Et assez rapidement, si on veut éviter d'arriver dans quelque chose ou dans lequel on impose énormément de contraintes pour des résultats qui, au bout du compte, ne sont pas forcément très très satisfaisants, eh bien, il faut changer. Maintenant, je pense que quand on prend le temps très long de manière économique, ce qu'on constate quand même, c'est que la croissance économique, ça n'a pas été, on va avoir plus de la même chose, ou demain tout le monde vivra comme les riches d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui on est plus riche que Louis XVI, mais c'est pas parce que on a tous 300 chevaux dans nos écuries quand lui en avait que 200. C'est que on consomme des choses différentes. Et on est sur une période qui est relativement courte en réalité, cette idée où on prend les produits et on les jette ensuite. On a l'impression que c'est naturel, mais en réalité, ça a 50 ans ce type de comportement. Même nos grands-parents, quand ils récupéraient une boîte de biscuits en fer, ils s'en servaient pour autre chose après. Donc, on est sur une période qui est un petit peu particulière, et je pense qu'il y aura forcément des évolutions, et que ce qu'on consommera demain sera très différent de la façon dont on vit et de ce qu'on consomme aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Delegue, Philippe Biwix et Catherine Larère, d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle alors votre dernier livre, Philippe Biwix, Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, ça vient d'être publié au Seuil. Catherine Larère, redites-moi l'ouvrage collectif Penser l'Anthropocène, voilà, aux presses de Sciences Po. Et puis Alexandre Delegue, alors ça remonte un petit peu plus, c'est un peu plus ancien, mais c'était Nos phobies économiques. Et puis on peut vous suivre sur votre site econoclast.net. Merci à tous les trois, merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduot, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster. Émission réalisée par Peyre et Legras, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.